L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le samedi 12 avril 2003, en toute fin de matinée. Mario a faim. Son ventre gargouille. Le jeune adolescent de 14 ans voyage en taxi depuis une grosse dizaine de minutes. Le gamin est excité comme une puce. Il va retrouver pour des vacances de printemps bien méritées sa mère, Graziella, et son beau-père, Xavier. Il va aussi revoir par la même occasion son demi-frère et ses deux demi-sœurs. Mario est un enfant dont la sensibilité est autant une force qu'une faiblesse. Le divorce de ses parents a été une épreuve fondatrice, bien que difficile dans sa jeune existence. Au volant de son taxi, le chauffeur, Ray-Ban sur le nez, regarde d'un coup d'œil dans le rétro le jeune homme assis à l'arrière, juste pour vérifier que tout va bien. Des jeunes qui voyagent seuls, c'est rare. Un panneau de signalisation sur le côté droit de la route indique le Grand Bornand. Ils sont bientôt arrivés à destination. Mario, qui regarde passer les montagnes et les chalets, se délecte de ce paysage qui lui rappelle d'excellents souvenirs. Serrant fort la poignée de sa valise, il s'apprête déjà à sauter de la voiture pour courir dans les bras de sa mère. Ce que Mario ignore, c'est que derrière ce beau soleil de printemps en Haute-Savoie se cache une horreur indicible. Nous sommes le samedi 12 avril 2003, il est 11h. C'est l'heure H de mon histoire. Cinq minutes plus tard, Mario est déposé en bas du chemin d'accès du chalet de sa mère qui, normalement, l'attend toujours à cet endroit. Le môme sort de la voiture et paie le chauffeur avec les sous que son père lui a laissés. Il remercie le professionnel qui ressemble plus à un agent des Men in Black qu'à un taxi lambda et il se dirige vers le petit chemin. Mario est très surpris mais ne s'affole pas. Bon, après tout, il est l'heure de faire à manger. Rien d'étonnant à ce que sa mère soit occupée au fourneau. Et puis, Xavier et ses frères et sœurs sont peut-être sur les pistes. La neige tient encore bien à cette période de l'année. Sur la boîte aux lettres de la maison familiale, une fine couche de givre recouvre l'objet qui déborde de courriers. Machinalement, Mario se saisit des enveloppes, les glisse sous son bras. Son casque sur les oreilles, il fredonne « California Love » de Tupac. Ses chaussures crissent dans la neige et sa performance perturbe les oiseaux qui, dans un arbre chez les voisins, s'envolent dans une symphonie de cris en tout genre. D'un air amusé, Mario les regarde un instant, ferme les yeux, le visage tourné vers le soleil. Encore quelques pas et il retrouvera sa famille. Le regard illuminé, la jeune sauterelle accélère le pas et se présente sur le perron. Alors que juste avant, tout allait bien. Il est saisi par un sentiment des plus désagréables. La maison semble vide. Il n'entend aucun bruit derrière les murs. Ni sa mère qui chante comme elle peut le faire en préparant le repas, ni Xavier qui joue avec les enfants. Rien. Il est seul, là, près de la porte d'entrée d'un chalet qui ressemble à un bateau fantôme. L'espace d'un instant, le jeune homme se paralyse. Oh, non pas qu'il ait l'impression d'être tétanisé, non, mais son corps lui envoie des messages. Comme si il ne devait pas pénétrer dans la maison. Rien de plus anormal que de ne pas être accueilli, alors que tout le monde sait pourtant que c'est aujourd'hui qu'il arrive. Dans sa tête défile une multitude de scénarios, plus désagréables les uns que les autres. Alors que la logique voudrait qu'il pousse la porte, il se sent incapable de le faire. Il lâche sa valise qui s'ouvre avec fracas sur le sol immaculé, entoure la maison et court à toute vitesse chez les voisins, qui sont aussi des amis. Peut-être sa famille y est, en train de passer un bon moment. Mais lorsque cette pensée traverse son esprit, sans savoir pourquoi, il perçoit qu'elle sonne faux. Comme si, là, dans ce moment de panique primaire, il tentait lui-même de se rassurer. Mais il en est maintenant persuadé. Il s'est passé quelque chose de grave au Grand Bornand. Sa famille a disparu. Mario arrive transpirant chez les voisins et leur fait immédiatement part de son inquiétude. Il décide de retourner sur les lieux avec lui. Ils font tout le tour du chalet, remarquent que la porte d'entrée principale est fermée. Cependant, une porte-fenêtre qui donne sur l'arrière est ouverte aux quatre vents. Tiens, normalement, elle est fermée. Un oiseau est même entré dans le salon et chante à la cantonade, perché sur le divan. L'atmosphère de la maison est pesante. Le bois craque. Les appels de Mario résonnent dans les escaliers sans autre réponse que le silence, qui semble s'être installé ici depuis déjà longtemps. Le gamin, les yeux pleins de larmes, se réfugie derrière les voisins qui, eux, se chargent de faire le tour de la maison. Mario s'interroge en premier lieu sur l'état général du chalet. Il est particulièrement bien rangé, peut-être même un peu trop pour que ce soit normal. Soit. Il monte dans les chambres et la deuxième interrogation. Certaines couvertures ont disparu. Certains lits, mais pas tous. Non plus de draps. Le gamin fait appel à tous ses sens pour tenter de comprendre ce qu'il se passe, mais rien ne vient, si ce n'est l'horreur de l'incompréhension et la terreur de l'inconnu. Ses voisins le conduisent chez eux et lui proposent de manger quelque chose, mais Mario n'a plus faim. Il n'est plus heureux non plus d'être là. Le voilà pris au piège dans une situation qui lui paraît inextricable. Dans un réflexe bien naturel, les voisins contactent la gendarmerie qui se décide, après quelques tergiversations, à venir sur place prendre les différentes dépositions. Les équipes des forces de l'ordre de Haute-Savoie, tout de suite, annoncent aux voisins et à Mario que c'est certainement un accident de voiture qui a provoqué la disparition de la famille. Le jeune gamin ajoute une pièce de plus au jukebox en précisant que son beau-père, Xavier, a le pied particulièrement lourd. La région n'est pas particulièrement reconnue pour son hospitalité routière. Ponts, ravins et routes sinueuses se côtoient. Un accident est vite arrivé. Tiens, d'ailleurs, les gendarmes racontent qu'ils viennent de secourir une vieille femme qui a planté le nez de sa BX dans un fossé après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Si le jeune garçon se rassure à l'idée que les équipes de gendarmes vont lancer des recherches, les voisins, eux, sont plus sceptiques. Un goût amer au fond de la gorge. Ils ne peuvent s'empêcher de penser que quelque chose d'autre a pu se passer. Ils ont croisé les Flactifs, c'est le nom de la famille de Mario, il y a quelques jours et tout allait bien. Mais alors quoi ? Un accident de voiture ? C'est un peu léger comme explication. Eux savent déjà qu'en contrebas de leur propriété, un étrange manège est en train de se jouer. Ils ont surpris, un peu plus tôt dans la matinée, deux locataires vivant juste à côté du chalet des Flactifs. Ils les connaissent mal, mais une chose est certaine. Ils étaient en train de tripoter la porte d'entrée. Notre histoire se poursuit quelques semaines plus tard. Nous sommes le 5 mai 2003, aux premières heures de la matinée, sur la commune du Grand Bornand, en Haute-Savoie, tout près d'Annecy, une région de sports d'hiver et de montagne. Une véritable bénédiction de la nature où la neige est bien souvent reine d'un royaume réservé aux plus privilégiés. Au Chinaillon, là où nous arrivons, c'est du moins le cas. De très luxueux chalets défilent sous nos yeux et devant l'un d'eux, une agitation inhabituelle, anxiogène, est en train de se dérouler. Cette ambiance, qui contraste avec le cadre paradisiaque, a lieu devant le chalet d'une famille bien connue de la communauté, les Flactifs. Une famille de 6 personnes, dont 5 ont disparu, comme volatilisées. Denis Robert Charreau est le procureur de cette affaire qui vient de démarrer. Il se tient sur le perron du chalet. Derrière ses lunettes, un regard perçant, vif. Il tente d'analyser les événements qui se sont enchaînés. D'un coup sec, il tire de sa poche son paquet de cigarettes. Le soleil brille, les oiseaux chantent, la neige commence à fondre. Et là, là quelque part, une famille complète a besoin de son aide. Procureur de la République d'Annecy, un boulot calme en province. Ah, Dieu sait qu'il avait déjà entendu cette remarque de la part de collègues magistrats. Eh bien, qu'il vienne un petit peu mettre les pieds dans ce chalet pour voir. Ah, Denis Robert Charreau est un brin de mauvaise humeur ce matin. Le paquet de cigarettes à 10 heures est déjà presque vide. Il a la nette impression de se faire balader dans cette affaire. Depuis 3 semaines, 5 membres de la famille Flactif manquent à l'appel. Alertée par le jeune Mario, la gendarmerie, durant quelques jours, a étudié la théorie fort plausible de l'accident. À ce stade, Denis n'avait pas été alerté. Les choses ont pris une toute autre tournure à partir du lundi 14 avril. En ce jour de rentrée, les enfants de la fratrie ne se sont pas présentés à l'école. Aucune trace de personne d'ailleurs. Et surtout, les recherches pour retrouver une éventuelle voiture accidentée ne donnent rien. C'est à cette date que Denis est appelé par l'adjudant-chef de la gendarmerie locale et qu'il va mettre son nez dans cette affaire. Denis, agacé par les pensées qui tourbillonnent dans sa tête, tapote contre un des poteaux en bois du luxueux chalet. Quelque chose cloche. Une première perquisition avait eu lieu ce jour-là, sans qu'il puisse se rendre lui-même sur les lieux. Aucun signe de lutte n'a été retrouvé. Et ce qui frappe les équipes, au-delà de cet espace-temps qui semble indiquer que tout s'est arrêté dans cette maison, à la manière des films de science-fiction, c'est le fait que rien n'a été préparé. Le départ, s'il y a eu départ, s'est fait dans une précipitation très étonnante. Le frigo déborde de bouffe. Les ordinateurs et les valises sont soigneusement posés et rangés. Mieux, sur la gazinière, une blanquette de veau est prête à être mijotée. Denis, les yeux percutés par un rayon de soleil qui l'assomme, enfile ses lunettes de soleil. Il se rappelle cet appel juste après la perquisition reçue de la gendarmerie locale, lorsqu'on lui a raconté l'histoire de la marmite. Il a compris que c'était plus grave que prévu. Ces petits indices, pour lui, sont déterminants. Un élément important semble cependant indiquer que la famille a pris ses jambes à son cou. La voiture. La voiture ne trône plus dans l'allée. Elle a disparu. Tout de suite, le procureur y voit une priorité. Il a négocié à la sueur de son front l'envoi sur la zone de plusieurs hélicoptères qui ont tourné au-dessus des forêts et des pistes pendant plusieurs jours. Un 4x4 Toyota rouge vif. Il y a quand même plus difficile à localiser. Devant le manque de résultats par voie aérienne, Denis a même mobilisé des plongeurs qui sont allés fouiller de fond en comble les profondeurs du lac d'Annecy. Mais rien. Un nuage de grande ampleur vient maintenant cacher le soleil. Le procureur, marmonnant dans sa cigarette 2-3 amabilités à destination du temps, range ses solaires pour reprendre ses grosses montures de vue. L'affaire ressemble alors à un encéphalogramme plat. Il ne se passe rien. C'est la mort cérébrale. Ils ont dû passer à côté de quelque chose dans la maison. La semaine qui suit la première perquisition, Denis avait ordonné qu'une seconde soit lancée. Et là, stupeur. Sur la table de la cuisine, les PC portables et les dossiers qui s'y trouvaient se sont volatilisés depuis leur premier passage. Alors ça, c'est quand même fort de café. Quelqu'un, de manière incontestable, est venu récupérer ces précieux objets. Autant vous le dire, Denis est vert de rage. Hulk en pleine transformation. Pourquoi les gendarmes n'ont-ils pas mis de scellés? Qui est ce petit salopard qui vient comme ça, impunément, sous son nez, voler des pièces à conviction sans aucune difficulté? Le procureur écrase la fin de sa clope avec son pied sur le sol goudronné de l'extérieur. Le ciel bientôt se noircit. En tous les cas, cette disparition d'objets lui a permis de se concentrer sur les membres de la famille, et plus particulièrement sur Xavier Flactif, 41 ans. Le passé de cet homme, il n'a pas fallu creuser bien loin pour le trouver. Promoteur immobilier, installé au Grand Bornand depuis un peu plus de 6 ans avec sa femme et leurs enfants, cet homme est réputé mauvais payeur. Quelques chantiers de chalets dont les traites n'ont jamais été réglées. Voilà un bon mobile pour une disparition. Denis pense alors que toute la famille s'est fait la malle pour échapper au fisc et aux créanciers. Et surtout, que Xavier est venu récupérer les dossiers et les ordinateurs qui auraient pu contenir des documents, disons, compromettants. D'autant qu'en creusant un peu plus loin, le procureur et ses équipes se rendent compte que l'homme d'affaires n'hésitait pas à placer des locataires dans ses chalets, sans en avertir les propriétaires, gardant par là même un double des clés et se faisant payer un loyer en liquide, évidemment. Voilà donc un bandit des grands chemins en col blanc qui se serait retrouvé un jour ou l'autre dans l'œil du cyclone. D'autant qu'après des arnaques en Belgique et dans le nord de la France, interdit de gestion, il avait mis la totalité de son entreprise au nom de sa femme. Le lendemain, le procureur découvre que Xavier Flactif est détenteur de plus de 75 comptes en banque, dont certains dans des paradis fiscaux, et que, cerise sur un gâteau qui ne cesse de grossir, un collectif a été formé dans le Nord afin de dénoncer ces pratiques frauduleuses. Voilà donc un homme qui ne manque pas d'ennemis, c'est le moins que l'on puisse dire. La théorie de la disparition volontaire prend donc de l'ampleur. Plusieurs fois, les gendarmes se rendent sur le terrain et sont apostrophés par des habitants du bourg qui expriment leur accord à ce sujet. Après tout, rien d'étonnant de voir un étranger être victime de rejet par les locaux. Car oui, ça, Denis l'avait bien remarqué. La couleur de peau de Flactif, qui est noire, provoque dans le petit village de Haute-Savoie une vague de racisme non négligeable. Il n'en faut pas plus pour provoquer un raz-de-marée dans la presse régionale et nationale. Vous imaginez, vous, le combo qui allie disparition, racisme et histoire d'argent? Ah ben c'est bingo, évidemment. D'ailleurs, une caméra de France Télévisions est déjà là. Les équipes font le pied de grue. D'un air dédaigneux, Denis observe le manège du caméraman qui essaye par tous les moyens de zoomer pour choper des images valables. Tout le voisinage est interrogé. Chacun y va de son commentaire nauséabond, parle de l'étranger et de sa femme italienne qui aurait des liens avec la mafia. Enfin bref, ça part dans tous les sens. C'est à ce moment-là que Denis a changé son fusil d'épaule. Se rendant compte de la jalousie suscitée par la réussite de cet étranger dans la station, il se décide à ne pas écarter trop vite la piste criminelle. Le procureur vient de terminer la dernière clope de son paquet. Il soupire et, le nez face au soleil, tente de rassembler ses esprits. Il n'en aura pas le temps. On l'appelle. « Denis ! Non, Denis, bordel, viens voir, il y a des traces !» Le révélateur Blue Star, un outil indispensable, a en effet parlé. Des taches de sang viennent d'être mises au jour, ce 5 mai 2003, dans quasiment toutes les pièces de la maison. Ah, elles ont été nettoyées, certes, et certainement aux produits de vaisselle, mais des résidus sont encore présents. Les dernières certitudes du procureur sont ébranlées lorsqu'on vient lui présenter une douille de 6 mm, abandonnée sur place. Pire encore, des molaires sont retrouvées, incrustées, enfoncées au plus profond dans le parquet de la cuisine, signe certainement d'une exécution de la plus grande des violences. Après analyse, le sang retrouvé partout sur les murs est reconnu comme celui des 5 membres de la famille. Et la dent, elle, est une dent de lait. Elle appartenait donc à l'un des enfants. Denis, comme tous ses collègues, bascule dans l'horreur. Il décide de se concentrer un peu plus sur les témoignages du voisinage. En réécoutant les reportages des différents JT, il remarque un visage qui revient souvent, bien plus que les autres. Il s'agit d'un locataire de Xavier. Il s'appelle David Otia. Et Dieu sait qu'il aime cracher son venin sur le dos de son propriétaire. Sa femme, Alexandra, est interrogée dans l'émission 7 à 8 de TF1 parce qu'elle a été durant un temps la femme de ménage de la famille. Elle mentionne que Xavier n'est que, je cite et pardonnez-moi ce langage, un gros con qui prend les gens pour des esclaves. Ambiance. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle continue sur le même ton. Ah, c'est pas croyable, hein, qu'il puisse exister des gens comme ça, qui font du mal aux autres. Parce que lui, hein, il s'en mettait plein les poches. Et je vais vous dire le chalet où il habite là-bas. Ah bah c'est quelque chose, hein. Il y a 400 mètres carrés habitables. Un sous-sol, vous pouvez mettre 3 bus dedans tellement que c'est immense. Vous avez dit jalousie ? Rajoutez à ça les prises de parole de son compagnon, David Otia, qui ne cesse d'insulter son propriétaire. Et cela suffit pour que le procureur commence tout doucement à s'intéresser au profil de ce couple décidément particulièrement singulier. Et une chose est sûre, il va pas être déçu.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H porte sur une sordide histoire de disparition qui a eu lieu en France en 2003. L'affaire Flactif, dite « affaire du Grand Bornand ». 5 personnes d'une même famille se volatilisent un beau jour de printemps. Alors que tous les villageois s'accordent pour accabler le père de famille, un couple, plus agressif que les autres, attire l'attention des enquêteurs. Si le procureur et ses équipes au départ penchent pour un accident ou une disparition volontaire de la famille afin de prendre un nouveau départ loin des ennuis financiers, l'insistance de cette jalousie à l'égard des disparus va leur mettre la puce à l'oreille et leur donner l'occasion de voir l'affaire sous un nouveau jour. Et si les Flactifs, finalement, avaient été tués dans leur chalet de Haute-Savoie? Denis Robert Charreau commence tout doucement à le penser avec insistance. Nous sommes dans le courant du mois de mai 2003. Le procureur de la République, depuis déjà 2 heures, écoute en rediffusion l'émission consacrée à l'affaire qui est passée quelques jours plus tôt sur TF1. Lui et ses équipes en sont tout bonnement estomaqués. Tellement qu'il laisse sa cigarette mourir au bord de ses lèvres sans même tirer dessus. C'est dingue, hein ? Tout bonnement hallucinant. Alexandra, la femme de David Otilla, le locataire agressif, est presque en train d'admettre qu'elle aurait pu les tuer. Là, en direct, à la télévision. Le procureur se retourne vers l'adjudant-chef de la gendarmerie locale qui, debout derrière lui, croise les bras d'une sévérité qui veut tout dire. Un de ses sourcils relevé, comme pour marquer son étonnement face à cette situation des plus cocasses. Denis écrase son mégot dans le cendrier devant lui et remonte la vidéo de 30 secondes. La bande, dans un bruit caractéristique, se met en mouvement. Tout de suite après, le procureur appuie sur play. Debout, devant son compagnon assis à une table, la jeune femme, dans un haut blanc à motif, s'exclame. Ah bah avec toute la merde qu'il a foutue autour de lui, même les agences immobilières, l'agent immobilier d'ici m'a dit, il a de la chance de jamais tomber sur un Corse, parce qu'il serait dans la mer avec une pierre au cou à cette heure-ci. Ces témoignages insistants et les très nombreuses découvertes de sang nettoyé vont dans ce sens. L'équipe d'enquêteurs a de moins en moins de doutes. Ils tiennent certainement leur coupable. Massacrés dans le chalet, les corps ont été déplacés et le tout nettoyé ensuite avec une minutie qui n'a pas pu être totale. Voilà certainement en gros le tableau auquel les enquêteurs font face. Reste maintenant à trouver des preuves. Denis, assis sur sa chaise de bureau, se gratte la tête, cherche du soutien dans les yeux de ses collègues présents autour de lui. N'en trouve pas vraiment. Pourtant, il va bien falloir coincer ces salopards. La route vers la résolution de l'affaire s'annonce encore longue et pénible. Ce soir-là, en rentrant chez lui, le procureur manque de s'endormir au volant et de finir dans un fossé. Il est à la recherche de solutions pour comprendre ce qui s'est passé. Le mobile, il l'a déjà, il est évident. Au fond, si les Flactifs ont été massacrés chez eux, c'est uniquement pour une affaire d'argent et de jalousie. C'est peut-être ça qui terrifie le plus le procureur. Qu'on soit capable d'assassiner des enfants innocents à cause du pouvoir de l'argent. Et ce soir-là, en rentrant, plus que tous les autres, il serrera ses enfants dans ses bras. Pourtant, Denis Robert Charreau n'est pas encore au bout de ses peines. Le 13 mai, le 4x4 est enfin retrouvé. Sur le parking de l'aéroport de Genève, l'un des tapis a été découpé au cutter. On trouve pourtant des traces de sang dans le coffre. Reste maintenant à retrouver les corps. Malgré l'échec des recherches menées un peu partout dans la région et à l'aide de plusieurs moyens, une bonne nouvelle, enfin, vient illuminer le visage des enquêteurs. Un 6e ADN, celui d'un homme, a été retrouvé dans le chalet, à 22 endroits différents. De sources inconnues, certes, mais voilà une information que la police se décide à faire fuiter dans la presse. Cela permettra, pourquoi pas, de provoquer une erreur de la part du tueur présumé. Le fameux David Otilla. Oh, rien ne peut le confirmer avec certitude, mais la piste est solide en tout cas. Le soir de la découverte du 4x4, une liste de suspects est émise par le procureur. Denis place David Otilla en tête, alors que le listing comprend 7 ou 8 autres personnes. Il est mis sur écoute. Et pour lui mettre la pression, la gendarmerie décide de réaliser des tests ADN de tout le voisinage, afin de le comparer à celui retrouvé dans le chalet. C'est dans les jours qui suivent qu'on découvre que David Otilla est la dernière personne à avoir vu les flactifs en vie, puisque Xavier lui a remis des clés ce matin-là, des clés à destination de locataires qui arrivaient pour les vacances. L'étau se resserre sur le jeune homme, qui ne se doute encore de rien. Cela ne l'empêche pas de se lâcher au micro des caméras. Le 15 mai, il déclare ceci. « Je crois qu'ici, c'était son bureau. Il était ici avant, mais après, il l'avait déplacé, monté en haut. Peut-être qu'il avait trop peur. » Le journaliste rebondit, lui demande pourquoi Flactif aurait dû avoir peur. La réponse du suspect est lunaire. « Ah bah, je sais pas, moi, avec tous les ennemis qu'il avait, il a peut-être peur de rester en bas tout seul. » Il termine l'interview en lâchant ces mots qui résonnent comme un aveu. « Bon, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Ah bah, c'est possible aussi que quelqu'un ait fait un carnage là-dedans, hein. On sait pas. » Début juillet, sans surprise, l'ADN finit par parler. Le sixième retrouvé sur les lieux est bien celui d'Otilla. Mais là, Denis Robert Charoro stoppe net les gendarmes qui souhaitaient interpeller le suspect. Non. Il vaut mieux attendre encore un peu. Si Otilla tombe dans un mutisme total, ça va être embêtant pour la suite de l'enquête. Alors on maintient les écoutes téléphoniques jusqu'à la fin de l'été. Et de fait, c'est le jackpot. Elles permettent de mettre en lumière des éléments nouveaux, de confirmer que David et sa compagne Alexandra sont les principaux cerveaux de cet horrible assassinat. Mais surtout, qu'ils ont été aidés dans cette entreprise par un couple d'amis aussi originaires du nord de la France, les Aremza. Cette fois, il n'en faut pas plus à la justice pour agir. Le 16 septembre à l'aube, ce sont 90 gendarmes qui sont déployés pour les arrêter tous les quatre. À peine 30 minutes d'interrogatoire et David Otilla reconnaît être l'auteur des meurtres. Il accepte de conduire les gendarmes dans le petit coin de forêt reculé dans lequel il a incinéré les 5 corps de la famille Flactif. Ils sont à une dizaine de kilomètres. La famille ne récupérera que quelques sachets de cendres. Pour autant, les versions des co-accusés rapidement divergent. Le procureur Denis Robert Charoro se rend sur place afin d'assister aux aveux de David Otilla. Ce qu'il va entendre dans ce bureau sombre de la gendarmerie locale va le marquer à tout jamais.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur H porte sur le quintuple assassinat d'une famille de Haute-Savoie, les Flactifs. Longtemps, les pistes de la fuite en avant ou celles d'un accident de la route ont tenu la corde. C'était avant qu'un couple un peu original ne s'épanche dans les médias sur leurs griefs envers les disparus. Rapidement, les enquêteurs trouvent des traces de sang dans le chalet et mettent la main sur un profil ADN qui, après vérification, apparaît être celui du principal suspect de l'affaire. Arrêté en septembre, David Otilla va tout de suite avouer l'horreur indicible. Il a massacré toute la famille. Nous sommes le 16 septembre 2003. Le soleil à l'horizon et au travers des stores du bureau commence à décliner. Dans une ambiance morbide, un gendarme tape avec deux doigts sur les touches d'un clavier d'ordinateur qui ressemble déjà à une antiquité. Au fond du bureau, les fesses à peine posées sur un petit meuble de rangement à glissière, le procureur Denis Robert Charoro attend, les yeux fixés sur le dos du meurtrier de la famille Flactif. Il fume encore, mais cette fois, et c'est la première fois depuis longtemps, avec le sentiment du devoir accompli. La fumée de sa cigarette cesse de se dissiper. Tout le monde est plongé dans un épais brouillard de tabac pour le moins désagréable. Le gendarme continue de préparer les papiers de sa déposition et David Otia, lui, a les yeux dans le vague. Le regard du condamné. C'est comme ça que le procureur l'appelle. Dès que le gendarme arrête de frapper sur son clavier comme un damné, Otia prend ce silence pour un signal qui l'autorise à parler. Et il déroule l'horreur des faits. Revenons au vendredi 11 avril 2003. Il est à peine 8 heures du matin. Graziella Flactif est en joie. Mario, son garçon, né d'une première union, arrive demain pour passer quelques jours de vacances en famille. Xavier, lui, travaille dans son bureau, fait des allers-retours entre les pièces de la maison alors que les trois enfants, eux, sont à table et prennent leur petit déjeuner. Un tableau familial, somme toute classique, pour un vendredi matin avant de partir à l'école. David Otia arrive dans la maison et s'embrouille avec le père de famille au sujet d'un différend immobilier qui traîne visiblement depuis quelques semaines. Le ton monte crescendo et Otia sort un pistolet de sa poche pour menacer le père de famille. Il dit qu'il ne veut pas tirer, mais enclenche tout de même le mécanisme. Il tue finalement Xavier Flactif d'une balle dans la tête et décide d'éliminer ensuite les enfants ainsi que leur mère pour ne pas laisser de témoins. Mais il l'assure, le meurtre de Xavier Flactif est tout à fait accidentel. Il transporte alors les corps dans des draps, du chalet jusqu'à la forêt, brûle le tout et retourne nettoyer la scène de crime dans la foulée. Denis Robert Charoro, au fond de la pièce, ne peut réfréner un sourire au coin des lèvres. Ce mec, là, sur sa chaise, il est en train de leur raconter des conneries. Cette version des faits ne tient pas debout. Cela ne va pas empêcher Otia de renouveler ses aveux, cette fois devant la juge d'instruction. Pourtant, dans la pièce voisine, les interrogatoires du couple de complices amènent sur la table une version totalement différente. Selon eux, le geste de David est prémédité depuis des mois. Il lui aurait été inspiré par un reportage internet consacré à un tueur en série italien, dans le but de s'emparer du chalet de la famille Flactif. Dans le tribunal, la préméditation éventuelle change tout, bien entendu. Sa femme, Alexandra, dira à la fin de son interrogatoire ce jour-là « Nous étions tous d'accord, mais c'est David seul qui l'a fait. » Drôle de démonstration de courage. Pourtant, les enquêteurs se rendent vite compte que les derniers moments de la malheureuse famille Flactif se sont passés bien différemment. Ils pensent d'ailleurs que la préparation du crime et la dissimulation des preuves ont été arrangées par ce couple et par sa femme Alexandra. David, lui, n'aurait servi que d'exécutant. D'autant que la crémation à ce point aboutie a nécessité, tenez-vous bien, près de 900 kilos de bois et des dizaines de litres d'essence. Quelques jours plus tard, David Otia, sous l'influence de son avocat, change de version et se rétracte. Il évoque la présence de deux hommes qu'il aurait assommés et aurait assassiné la famille avant de le forcer à se débarrasser des corps. Très peu probable. Une psychologue qui examine Otia met en lumière un narcissisme poussé à l'extrême, justifiant donc le meurtre par cupidité. Sa rétractation n'annule en rien son inculpation et donc son procès aura bien lieu. C'est lui qui va apporter les ultimes précisions d'une bien sordide affaire. Le 12 juin 2006 s'ouvre le procès des quatre coaccusés. Pour l'heure, David Otia maintient sa deuxième version des faits. Il plaide non coupable et ne donne aucune explication. Le couple Aremza, lui, soutient qu'ils ont bien préparé les meurtres ensemble, mais qu'il se serait rétracté au dernier moment, tandis que la compagne de David, Alexandra, elle, explique n'avoir été mise au courant des meurtres qu'une fois qu'ils ont été réalisés. Elle n'aura ensuite pas dénoncé son compagnon par peur. Voilà un beau tableau de coupables qui joue aux innocents. L'instruction, pourtant, va apporter des éléments nouveaux. Un an avant les meurtres, ils ont déjà tous ensemble mis le feu à un chalet en construction appartenant à Xavier Flactif. De plus, les quatre ont aussi commis des cambriolages et des vols de voitures, envieux du mode de vie de certains de leurs voisins. Mais c'est l'analyse approfondie de la scène de crime elle-même qui va faire basculer le tribunal dans l'horreur. En effet, ce qui s'est véritablement passé le 11 avril 2003 dans le chalet du Grand Bornand est d'une horreur sans nom. L'heure invoquée par le suspect est déjà changée. L'action se serait visiblement déroulée le soir, au retour des enfants qui arrivent toujours en premier. David Otilla aurait d'abord assassiné les enfants, puis leur mère et enfin le père de famille. Les enquêteurs tombent aussi d'accord sur le fait que le pistolet n'a pas servi pour tous les meurtres. C'est avant toute chose une arme contendante qui fut utilisée pour tuer toute la famille. Ce n'est donc pas un coup de rage. Sans autopsie possible, voilà les éléments que nous connaissons. Les trois enfants prennent leur goûter à tabler. Il est à peine 17 heures. Sarah et Grégory sont à table. Laetitia est dans le salon. En voyant arriver David Otilla, les enfants qu'ils connaissent ouvrent la porte. Sans savoir précisément ce qu'il se passe dans l'entre-deux, l'homme se saisit d'un morceau de bois qu'il prend dans la cheminée et il commence à frapper les enfants à mort. D'abord Grégory, puis il court après Sarah dans tout le chalet et ne cesse de la frapper jusqu'au moment où elle s'effondre. Les multiples traces de sang dans le chalet le prouvent. Laetitia, dans le salon, paniquée, terrorisée, court se réfugier dans sa chambre. Elle n'a pas le réflexe d'aller vers l'extérieur. Elle se cache derrière son lit. Il faut savoir que l'escalier de la maison est composé de 17 marches. Elle entend donc son meurtrier monter marche après marche. Elle se fait massacrer, comme le reste de la fratrie, à coups de bâton. La molaire retrouvée incrustée dans le parquet, c'est une dent du petit Grégory. Alors, je vous laisse imaginer l'horreur de la scène et la force de l'impact. Ce monstre a donc tué trois enfants de plein sang-froid avant d'abattre les parents. Alexandra, elle, pleure beaucoup durant le procès. Elle est enceinte d'un autre homme que David. Elle jure qu'elle n'était pas au courant des meurtres, qu'elle n'a pas dénoncé son compagnon par peur de sa réaction. La vérité est sur ce point encore loin d'être totalement mise en lumière. David Otilla, à la fin du procès, est reconnu coupable et condamné à une peine de prison à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il ne pouvait recevoir plus lourde sanction. Alexandra en prendra 10. Les époux Aremza, respectivement 15 pour le mari et 7 pour son épouse. C'est la fin d'une enquête judiciaire horrible, éprouvante pour tous les protagonistes. Le procureur de la République, Denis Robert Charoreau, y survivra d'ailleurs pas longtemps. L'homme est décédé en juin 2013, à l'âge de 61 ans seulement. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation de Woody Allen. Celui qui nous a transmis tout le long de sa vie des films d'anthologie a su aussi faire passer ses messages au travers de petites phrases, dont une qui, dans le cas présent, résonne particulièrement nos oreilles. Il dit ceci. « Vous pouvez détester les gens sans avoir de raison valable. Il y a en ça quelque chose de chimique. Et c'est peut-être, au fond, ce qui poussa ces deux couples jaloux dans la folie la plus aveugle. » Voilà pour ce récit glaçant que j'ai partagé avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.